Aujourd'hui, la masterclass de Gilles Clément avec Arnaud Laporte.
Peut-être avant de véritablement débuter, je me permets de rappeler quelques éléments concernant votre parcours, Gilles Clément, pour dire que vous êtes alors, jardinier, paysagiste, botaniste, entomologue, biologiste, écrivain, que vous avez longtemps enseigné à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, que vous avez été en 2011-2012 titulaire de la chaire annuelle de création artistique au Collège de France. Et puis pour présenter votre proposition au Collège de France, vous écriviez, je vous cite, « Ma pratique professionnelle consiste en une activité globale où figurent la conception et la réalisation de paysages ou de jardins, et l'écriture et la publication de textes liés à cette activité et la communication raisonnée de cette pratique. Ce dernier point donne lieu aux conférences, aux expositions, mais aussi et surtout à une pédagogie du projet de paysage dans le cadre d'un enseignement dispensé notamment à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles. Les trois premières séances de votre année au Collège de France étaient consacrées aux trois principaux concepts résultant de vos recherches, le jardin en mouvement, le jardin planétaire, le tiers paysage. On reviendra bien sûr sur ces concepts, mais la première question sans doute devrait être celle-ci. Est-ce que vous vous considérez comme un artiste, Gilles Clément, ou cette invitation dans notre collection de masterclass, comme celle peut-être du Collège de France, vous a surpris?
Oui, ça m'a surpris. Se considérer comme un artiste, je ne suis pas sûr que ce soit moi qui puisse en décider. Parce que dans notre profession, il y a une dimension artistique. Être artiste, c'est peut-être quelque chose d'autre. Il y a même peut-être des gens qui ne savent pas qu'ils sont des artistes. Et je vois dans l'artiste celui qui regarde différemment et propose ce regard aux autres, y compris à ceux qui décident, mais qui n'avaient pas imaginé qu'on pouvait regarder et voir autrement. Donc c'est forcément subversif.
Comment est-ce qu'on passe d'un travail de terrain à l'élaboration de concepts? Est-ce qu'il y a une méthode Gilles Clément? C'est bien sûr ce qu'on va essayer d'aborder, mais peut-être tout d'abord, est-ce que vous croyez, vous, à la vocation?
Ça, je ne sais pas. Je pense que la vocation, ça fait bizarre. Je trouve que il y a une implication un peu... Pas sanctuarisé, mais enfin, quelque chose comme ça. Non, je pense au plaisir de faire quelque chose qu'on a envie de faire. C'est sûr, oui. Moi, quand j'ai commencé à regarder les plantes pousser dans les graviers, d'un sol comme ça sur lequel il fallait, soi-disant, qu'il fallait désherber, je me suis vraiment intéressé à cette question qui était au ras du sol. Et puis, c'est pas forcément pour ça que c'est une vocation, c'est un intérêt, quoi.
Mais vous avez une formation d'ingénieur horticole, de paysagiste. Il a bien fallu que vous avez choisi ces formations. Qu'est-ce qui vous a amené là?
Un jour, en classe de seconde, j'étais très mauvais. Hein. Je passais d'une classe dans l'autre, tout à fait le dernier, quelquefois pas du tout. J'en ai redoublé plusieurs. Bon, puis arrivé en seconde comme ça, quand même, il y a une prof de sciences nat, ça s'appelait comme ça à l'époque, les sciences naturelles, qui me dit, mais parce que j'étais bon là-dedans quand même, voilà, c'était la seule discipline où ça marchait, et elle me dit, il y a un métier qui existe, c'est paysagiste, ça existe. Alors, je ne savais pas du tout, et il fallait faire l'école d'ingénieur, il fallait passer par... Et à partir de ce moment-là, moi, je savais où j'allais, j'ai commencé à devenir bon.
Le premier, du coup? Et plus le dernier?
Non, pas le premier, mais ça allait.
Vous avez aimé ces années de formation?
Ah, c'était dur, mais comme je savais où j'allais, ça n'avait pas d'importance. Les prépas de l'agro, parce que c'est ça qu'on faisait, parce qu'il y avait un concours commun, agro, grignon, qu'on appelait agri, et puis horti, qui était l'école d'horticulture de Versailles, où il y avait une spé, ce qu'on appelait une spé, une spécialisation, vers plein de choses, dont le paysage. Et moi, j'y allais pour ça, pour la formation paysage. Il n'y avait pas d'autre formation. L'école du paysage est devenue indépendante de l'école d'horticulture que dans les années 79-80. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, où je suis devenu aussi prof dans cette école. J'ai commencé dès le début. Mais avant, elle était une spécialisation de l'école d'horticulture, qui est partie à Angers.
Mais vous avez le sentiment d'avoir appris quoi dans ces études, Gilles Clément?
Alors, j'ai le sentiment d'avoir appris deux choses. L'alphabet, c'est-à-dire des choses très basiques et qui malheureusement, je crois, on n'apprend plus trop aujourd'hui, qui nous permettent de savoir où on est. Ça veut dire comment on peut nommer une plante, dans quelle série elle a pas, à quelle série elle appartient, même si la classification systématique est quelque chose de bizarrement raisonné qui n'a rien à voir avec la classification qu'on ferait aujourd'hui écologiquement. Il y a des plantes qui appartiennent à la même famille et qui n'ont rien à voir dans le même milieu. Elles ne pourraient pas vivre ensemble, par exemple. Mais bon, on a fait des progrès de ce côté-là. Mais simplement, on ne l'enseigne plus, ça.
Et pourquoi on ne l'enseigne plus, ce n'est plus...
Ah, parce qu'on considère que, de toute façon, on a la maîtrise. Donc, avec les produits et les machines, et qu'il est hors de question de commencer à passer son temps à savoir où on habite. Ça, ce n'est pas intéressant. On maîtrise. Donc, on domine, on cultive une plante et on tue toutes les autres. Donc, la deuxième chose que j'ai appris, c'est à tuer. On nous a appris à tuer. Voilà. Avec évidemment des produits, bien sûr, mais des tas de systèmes. Hein. On nous disait qu'il fallait apprendre. D'ailleurs, on continue encore aujourd'hui dans les lycées agricoles à apprendre aux étudiants comment on fait pour tuer. On prend par cœur les recettes. Alors, bien sûr, il y a quand même ça évolue un peu, heureusement. Je caricature. Mais pas trop, hein, pas trop. Et quand moi, je me suis trouvé face à la question de comment je fais pour garder la diversité que j'apprécie, parce que justement, je l'appréciais, y compris celle des insectes. Je suis pas entomologue, hein. Je suis amateur, mais enfin, je m'intéresse beaucoup. Et qu'on comprend que par là, on peut appréhender l'écosystème parce que c'est une porte d'entrée remarquable, y compris jusqu'au jardin planétaire. Donc, toutes petites choses sont les plus importantes parfois. Mais je me dis, mais je sais pas faire parce qu'on m'a pas appris ça. On m'a appris à éliminer tout ce que l'on ne cultive pas ou tout ce que l'on n'élève pas, mais pas du tout à garder tout ce qui pourrait constituer les auxiliaires du jardinier. Aujourd'hui, on sait que dans cette diversité, il y a plein de choses qui nous aident, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Et comme on continue à avoir cette vision, à quoi ça servirait d'apprendre le nom, l'usage et la vie de ces êtres que de toute façon on élimine ? Ça sert à rien.
Il y a une certaine logique. Terrible, mais logique. Avec un parcours et une pratique comme les vôtres, Gilles Clément, alors on peut bien sûr s'interroger sur la méthode de travail. Il y a un premier point important, même essentiel, vous concernant, c'est un lieu, c'est Crozan, dans la Creuse, où vous êtes installé il y a tout juste 40 ans, c'était en 1977. Ce lieu, il est fondamental au sens littéral, c'est le lieu d'études, d'expérimentation.
Moi, je voulais un jardin. Un terrain pour faire un jardin, ou pour être dans un rapport avec la nature, même si ce n'est pas un jardin. Et je me suis trouvé à faire une visite de 30 départements français, chercher un terrain et une maison, parce que je n'avais pas de lieu pour habiter. C'est une histoire compliquée. Donc je trouvais parfois le terrain, parfois une maison, jamais les deux. Et finalement, je suis revenu autour de ce lieu qui a été celui de mon enfance, où là, un paysan voisin, il y avait encore des paysans, me dit « Mais non, mais écoute, ce truc, il est à l'abandon, là, personne s'en sert, t'as qu'à l'acheter. » Il n'était pas à vendre, mais je l'ai acheté quand même. Donc, voilà. Et puis, on ne pouvait pas construire sauf des bâtiments agricoles. Donc, j'ai fait... fallait que j'aie une maison quand même. Donc, j'ai habité la tente, une tente d'occasion de l'armée pour... le temps de construire la maison, puisque j'ai construit de mes mains. Et ça a été compliqué, parce que j'ai jamais eu le permis après qu'elle soit construite. Donc, j'ai eu quelques problèmes avec l'administration de l'époque, qui voulait absolument que j'aie un chemin de 4 mètres, l'eau de la ville, l'électricité. Alors, le chemin, ils disaient, oh, d'accord, ça va. L'eau, il y avait la source, ouais, d'accord, ça va. Et puis, l'électricité ne voulait pas venir, parce que EDF disait, non, j'ai besoin de votre permis pour construire. J'ai dit, non, j'ai besoin de vous pour avoir le permis. Comment on fait ? J'ai pas attendu parce que j'y serais encore à attendre. Donc j'ai construit. Et pour aller très vite, au moment où je pose le dernier bardeau couvrant le toit, maison hors d'eau, les flics sont arrivés. Les gendarmes, ils sont plus gentils. Et bon, on a discuté. C'était très drôle parce que c'est la seule année où un de mes amis qui venait de temps en temps avait planté de l'herbe. Ils n'ont pas trouvé, ils ont cherché. Hein. Ils ont cherché parce qu'ils cherchaient ça aussi. C'est un prétexte parce que quelqu'un qui construit sa maison, c'est louche et tout. Ils n'ont rien vu du tout. Mais je leur ai dit, rassuré, vous savez, le permis, on va l'avoir. Oui, on discute et tout. Bon, je suis revenu avec la DDE qui ont dit, ah, C'est comme ça qu'on construit en creuse. Oui, c'est bien, c'est le mode. Bon, bref, ils m'ont donné le permis après que j'ai refait des dessins. Et 8 jours plus tard, quand j'ai eu le numéro, est arrivée une petite voiture bleue. C'était EDF. Avec deux mecs qui sortent de là. Je dis, mais attendez, qu'est-ce que... Je dis, mais vous nous avez demandé. Je dis, oui, je vous ai demandé il y a 2 ans et demi. Vous habitez à 23 kilomètres, ça fait beaucoup de temps pour eux. Et je dis, non, j'ai plus besoin de vous. Et ils sont repartis. Ils sont repartis et après, heureusement, je ne suis pas relié au réseau. Voilà, donc je peux faire mon électricité.
Vous êtes autonome.
Oui.
C'est la première création véritable, ce lieu et ce jardin, cette maison construite de vos mains, Gilles Clément, oui. Et ce jardin.
Ben, de toute façon, je n'aurais pas eu les moyens de le faire faire. Hein. Et puis, il y avait des pierres sur le terrain. On peut faire tout ça, hein. C'est pas difficile. Bah, maintenant, peut-être plus, j'ai plus tout à fait l'âge, mais et on peut, c'est pas compliqué. D'ailleurs, autrefois, tous les gens faisaient leur maison, c'était une chose complètement banale. Là, j'étais déjà un peu tombé dans une génération de paysans qui ne le faisaient plus, et qui donc se trouvaient bizarre que je me mette à cette tâche, mais en fait, c'était quand même quelque chose qu'ils connaissaient de leurs parents.
Alors, pour rester sur ce lieu, pour dérouler au cours de votre masterclass sur France Culture, Gilles Clément, les concepts que vous avez élaborés, peut-être commencer logiquement par le jardin en mouvement, donc qui propose une conception in situ, qui peut être comme un écho à Miss Van der Rohe et son Less is More. C'est donc dans votre propre jardin, dans cette maison de la Creuse, que vous avez élaboré ce concept. Alors justement, on va s'intéresser à cette façon dont il advient. Vous avez ensuite exposé ce concept dans ce livre, Le Jardin Mouvement, multi-réédité. Alors, moi, je vais résumer, et puis vous allez développer. On pourrait dire que le jardinier doit se faire observateur pour se mettre au service de la nature, pour coopérer avec elle. C'est une coopération.
Ben, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, ça c'est vrai, ou mal, ou peu. Et qu'on commence à s'intéresser à ça, c'est-à-dire à aller vers une meilleure compréhension de ce que moi j'appelle le génie naturel, qui est quelque chose de mis au point par les êtres vivants pendant des millions et des millions d'années avant même que nous soyons là, et qui nous permettrait, si on arrivait à mieux comprendre, à dialoguer, entre guillemets, avec ces êtres, pour en tirer quelque chose qui est profitable aux deux, c'est-à-dire comment pourrait-on continuer à vivre en exploitant cette diversité sans la détruire. Et quand j'arrive dans ce jardin, dans ce terrain, qui était en friche, heureusement, ce qui était de lui donner une grande diversité, et je me suis d'abord demandé comment faire pour garder cette diversité, en particulier d'insectes, mais aussi d'espèces végétales. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se déplaçaient dans le terrain, beaucoup de plantes sont vagabondes, et que pour les garder, ben, je devais respecter leur vagabondage, j'ai été obligé de faire des choses qui étaient contraires à ce qu'on m'avait appris complètement et qui étaient de maintenir la forme que l'on avait dessinée sur une table à dessin pour que le jardin existe suivant une idée, une image idéalisée du paradis. Parce que c'est ça, le jardin, c'est l'enclos et le paradis. Et je me dis, mais je peux pas faire ça. Donc il y a eu quelque chose au départ où la forme a disparu complètement de la manière de procéder. Il n'y aura pas de forme, elle sera donnée petit à petit par des choses qui vont apparaître sur le terrain. Et la première fois que ça a été flagrant, c'est quand une berce du Caucase, c'est une plante géante, magnifique et détestée parce qu'elle vient d'ailleurs, parce qu'elle est envahissante, parce qu'elle est photosensibilisante, enfin, elle a tous les défauts. Évidemment, je l'adore. Et elle arrive dans un endroit où on passe, on marche. D'habitude sur l'herbe, mais enfin quand même, c'est un petit passage étroit. Et je me dis, mais alors je fais quoi? Elle arrive, elle est sortie de l'espace, il y avait un pied-mer un peu à gauche, et elle va aller là, elle va me gêner. Et je dis, mais non, je vais changer c'est moi qui vais changer mon chemin. Je vais le mettre. Donc le jardinier respecte quelque chose qui est un mouvement physique sur le terrain, et c'est la raison pour laquelle ce mode de gestion, je l'ai appelé le jardin en mouvement. Et il change tout le temps.
C'est une co-création.
Ah, c'est de toute façon une co-création. Dans la question que vous posez, comment on commence, comment on finit, on sait quand on commence. On ne sait pas quand on finit, parce que peut-être un objet fini lui-même, une table comme ça, vous savez quand vous la commencez et vous savez quand vous la finissez. Une architecture aussi, un jardin jamais. Jamais, on est en co-signature en permanence. En effet, la nature, elle invente. Elle vient fabriquer quelque chose avec vous. Mais en plus, elle continue, même si vous n'êtes pas là.
Alors, il y a des applications quand même aussi très concrètes de ce concept de jardin en mouvement. Il y a le parc André Citroën, qui ouvre en 1992, un quart de siècle. Comment est-ce que vous avez appliqué ce concept à un jardin, certes grand, mais voilà, dans l'agglomération parisienne, intramuros, et comment est-ce que vous le voyez évoluer? Comment est-ce que vous dialoguez avec ce jardin au fil du temps?
C'était un concours international où l'architecte Patrick Berger, avec qui j'étais en dialogue, m'a invité en disant « il faut qu'on fasse ça ». Et on a discuté, et l'idée du jardin en mouvement, comme idée majeure, lui paraissait bonne. Et lui, avançant des idées sur la présence de l'eau dans la ville de Paris, qui était quelque chose de manquant, si on comparait à Rome, enfin. Et on a fait toute une espèce de réflexion sur la capitale, sur l'histoire des jardins dans la ville, et on a proposé, j'ai fait cette proposition qui a été acceptée et bien jugée d'ailleurs par le comité technique de l'époque, puis finalement on nous a mariés avec une autre équipe qui avait une image beaucoup plus architecturée, beaucoup plus construite, et ça a donné une équipe à quatre, des deux architectes et deux paysagistes. Mais comme l'autre paysagiste, qui est un très bon paysagiste, mais qui a une écriture plutôt d'architecture, ça faisait un peu comme si on avait trois architectes et un jardinier, quoi. Alors, y a quelque chose comme ça de qui s'oppose et en même temps qui se complète, donc c'est un parc intéressant. Et moi, ma discussion et mes problèmes ont été avec les ingénieurs de la ville de Paris qui disaient non, mais ça, parce que je montrais des photos de 8 ans d'expérience dans mon jardin dans la Creuse. Non, mais ça, bon, on peut faire dans la Creuse, mais pas à Paris, c'est pas possible, on peut pas, ça ne marcherait pas. Puis je dis, mais je comprenais pas pourquoi, parce que c'était la philosophie qui comptait, c'était pas les espèces, c'était pas le sol, c'était pas le climat. Et finalement, ils ont accepté à la condition que ce soit déplacé. Et on a fait un projet de synthèse où le jardin en mouvement qui était au centre et était reporté sur le côté. Là, ils espéraient qu'on l'oublierait. Et finalement, tous les journalistes se sont intéressés à ça. Ça m'a valu des problèmes, d'ailleurs.
C'est-à-dire ?
Ben, on parlait que de ça. Et les trois autres concepteurs...
Trop de lumière sur vous, Gilles Clément.
Mais oui, mais c'est un vrai problème.
Non, mais bien sûr.
Vrai problème, quoi. Il y avait, donc, je les cite, hein, l'autre paysagiste Alain Provost, Jean-Paul Viguier qui travaillait avec lui, et Patrick Berger avec moi. Or, au bout d'un moment, ils se sont sentis lésés parce qu'ils étaient co-concepteurs, vraiment, quoi. Or, les journalistes parlaient de ça, et même quand c'était pas nécessaire, à propos de l'expo Jardin Planétaire, ils ont tout à coup reparlé de ça en disant... Le titre de l'article, qui était pourtant très bien, Gilles Clément, concepteur du parc André Citroën. Mais non, on était quatre. Donc il y a failli menace de procès, enfin tout. Ça s'est arrêté quand ils ont compris que ce n'était pas de ma faute, quoi.
Mais justement, en dehors de celle de la nature, les collaborations et les collaborations extérieures, Gilles Clément, est-ce que c'est important de maîtriser toutes les étapes de l'élaboration d'un jardin? Qu'est-ce que vous déléguez, vous, concrètement?
Beaucoup de choses, surtout maintenant, parce que depuis 2003, je me suis inscrit à la Maison des Artistes. Alors, c'est pas parce que j'avais décidé que j'étais un artiste, c'est parce que c'était la manière de prendre une liberté par rapport à ce qui est le travail que demande la gestion d'un atelier, d'une agence, comme j'avais, à Cantes. Et j'ai pris cette décision-là qui me permettait de continuer l'écriture, faire des conférences aussi, des cours et des jardins malgré tout. Mais dans la partie jardin, moi, je n'ai plus le droit d'assumer la mission de maîtrise d'œuvre. Donc, je délègue. Mais je déléguais déjà avant. Et c'est une mission qui est plus technique, que je garde la conception. Mais même dans la conception, on discute. C'est rare qu'on la fasse tout seul. Quelquefois, oui, mais quelquefois, on discute à plusieurs. Et dans la partie, la mise au point du dossier, on est toujours en équipe. Toujours. Et la réalisation, en plus, il y a le suivi de chantier. Là, on est encore avec une équipe encore agrandie par des gens qui ont la possibilité d'aller sur le terrain parce qu'ils habitent tout près. J'ai fait un chantier au Chili, je ne vais pas y aller tous les 8 jours.
Compliqué. Donc, ils ne sont pas seulement des exécutants. Vous leur demandez ou vous attendez d'eux une part de créativité propre?
Ah ben sinon, ce n'est pas intéressant pour eux. S'ils ne participent pas à quelque chose qui est dans la réflexion. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne sont pas toujours cités. comme co-auteur, parce qu'ils n'ont pas non plus l'idée initiale, et puis parce que les gens journalistes, je ne vais pas leur dire du mal, hein, mais ils détestent faire une liste de... Il y en a un, puis c'est tout, quoi.
Bon, là, comme on est à la maison de la radio, on n'est pas très loin du parc André Citroën.
Oui.
Vous y allez de temps en temps, régulièrement,
le plus possible. Non, j'y vais quelquefois pour expliquer à des gens qui me le demandent. Et je leur dis qu'on ne referait pas aujourd'hui ce qu'on avait conçu à cette époque en mettant en œuvre un certain nombre de choses qui ne sont pas de l'ordre du vivant, qui sont dans la conception formelle, mais aussi dans l'animation, et les jeux d'eau en font partie, mais qu'on ne le referait pas parce qu'on sait qu'on n'a plus l'argent pour l'entretenir. Et à l'époque, on était encore sous cette espèce d'illusion qu'il y avait de l'argent pour ça. Mais tout a disparu, là. Il y a de moins en moins de jardiniers, il y a les techniciens d'entretien pour... Enfin, ça a disparu, quoi. Et donc, ils se trouvent avec des problèmes qui sont financiers. Mais la nature, elle s'en fiche de ça. Elle va bien, hein. Très, très bien.
Mais il est important aussi, peut-être, que vous rencontriez et puis puissiez échanger avec les personnes qui travaillent, justement, dans le parc André Citroën.
Mais c'est plus comme ça.
C'est pas le cas ?
Mais non, ça l'a été pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec les jardiniers en leur montrant comment on faisait pour la gestion du jardin en mouvement. Ils ont d'ailleurs très bien intégré ça. Il y en a un qui est devenu, à Viry-Châtillon, responsable plus tard, hein, responsable de toute une équipe où il gère la totalité des espaces de cette façon. Mais malheureusement, ça c'est la politique de la ville, la direction des espaces verts de la ville, ils changent les équipes. Et au bout d'un moment, il n'y a plus du tout ceux qui avaient compris. Alors, faut recommencer.
Il faut recommencer.
Et je ne suis pas là.
Ben oui, mais... Pourtant, vous êtes le co-auteur, alors
oui,
n'oublions pas les 3 autres.
Oui.
Il n'y a pas un droit d'auteur qui pourrait dire vous avez le
alors,
droit
il y a un
de,
droit d'auteur, je suis artiste. Mais comme à cette époque, je ne l'étais pas. Voilà. Non, on ne me sollicite absolument pas. Le seul jardin que je suis depuis 20 et quelques années, c'est le domaine du Rayol, dans le Midi, ou qui appartient au conservatoire du littoral, et où régulièrement on me demande de venir deux ou trois fois par an pour faire des comités techniques de suivi. Et là, évidemment, c'est très très bien, parce que je vois tous les jardiniers, ils sont assez nombreux, et ils sont des vrais jardiniers, c'est pas des techniciens de surface, hein, ils sont pas là pour faire propre, ils sont là pour comprendre. Et ils comprennent, et ils interviennent avec beaucoup d'intelligence. Donc c'est vraiment un très très... Et d'ailleurs, c'est un très beau jardin, et les gens le sentent, il n'y a pas de problème. Même si au début, il y avait des critiques avec un manque d'entretien ici ou là, maintenant, ils ont compris que ce n'était pas du tout un manque d'entretien.
Donc il y a pour vous, là, Gilles Clément, une satisfaction particulière pour avoir ce suivi.
Ah ben, bien sûr, comme je vous disais, on sait quand ça commence, on ne sait pas du tout quand ça finit. Il faut qu'il y en ait d'autres, après moi, qui continuent d'avoir un regard. Et ça peut tout à fait être les jardinistes du terrain. Ils ont cette compétence. Hein.
Alors, au-delà de ces collaborations nécessaires, est-ce qu'il est important pour vous aussi d'échanger intellectuellement avec vos pairs sur le travail en cours ? Est-ce que vous avez des correspondants dans le monde avec qui vous pouvez échanger sur l'avancée de vos travaux respectifs ?
Pas du tout. C'est bizarre. Hein.
Ben oui.
C'est très rare qu'on se rencontre. Ça arrive hein, dans des colloques comme ça. Parfois, on a des échanges. Mais finalement, là où je trouve un dialogue, c'est avec un paysan perdu dans l'Atlas marocain, un étudiant qui pose une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout, des trucs comme ça, quoi. Ou un livre qui vient de la science ou d'un philosophe. Et finalement, très rarement, c'est très rare que ce soit quelqu'un du métier que je fais. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que peut-être parce que dans ces échanges, il y a des choses qu'on a en commun, mais qui ne nous apprennent rien de plus. Et j'apprends de plus des autres.
J'en suis surpris, parce qu'on pourrait imaginer quand même qu'il y a une sorte de jardin, des jardiniers, ou de jardin planétaire pour vous, d'échanges, d'expérimentations. Tu as cette théorie, je vais essayer de l'appliquer chez moi, et puis inversement, et puis on va voir ce que ça va donner.
Ah non, non. Non, c'est quand je vois Wayang Krikting à Bali qui fait des offrandes pour elle va mettre sa nouée sur le riz au moment de la nouaison d'ailleurs, parce qu'il faut faire plaisir à des wicheries, tout ça. Ah ben, je me dis là vraiment, c'est un truc que je connaissais pas, quoi. Mmh. Ça fait presque un jardin, c'est un rituel, mais c'est plus que ça. Donc c'est ça qui m'apprend. Mmh. J'étais en Mongolie. Et puis là, avec des étudiants d'architecture d'ailleurs, on me dit, c'était au mois de septembre, hein, et on me dit, on nous dit, en juillet, il y a eu une rencontre entre l'Occident et les Chinois, nanana, ça s'est passé à Ulaanbaatar. Moi, j'avais pour mission de regarder ce que c'était que la place de la nature dans la ville. Et on nous explique qu'il fallait faire propre pour recevoir cette équipe internationale. Et donc, ils ont passé des badigeons blancs et jaunes sur les trottoirs. Ils ont tué tous les chiens et ils ont mis des pétunias. Voulez-vous que je communique avec des gens comme ça ? C'est pas possible.
Difficilement.
C'est pas possible. Ouais. C'était invraisemblable dans un pays animiste, avec des chamans, où les vies avec les animaux, on tue les chiens, on met des pétunias, ça n'a rien à voir avec ni le climat, ni la région, ni les... C'est rien. C'est ridicule. C'est idiot. C'est imposer un modèle culturel qui n'a aucun sens. J'ai du mal avec ça. Alors bon, il y a pas que ça, hein. Il y a des choses bien. Mais je les connais pas tous. Non, il y en a que je respecte énormément, qui sont plutôt d'ailleurs en Scandinavie, en Allemagne, quelques-uns aux États-Unis, mais c'est plus rare, et qui travaillent très très bien, mais j'ai l'impression qu'on fait la même chose. Donc,
Alors peut-être avant d'évoquer le concept de jardin planétaire, Gilles Clément, il y a une question récurrente dans ces masterclass de France Culture, c'est de savoir comment viennent les idées. Alors, vous avez écrit cette expérience dans le jardin de la Vallée, donc chez vous, a duré 8 ans, au terme desquels j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une nouvelle forme de jardinage, mais aussi d'une théorie visant à redéfinir la place de l'homme dans la nature. Alors on imagine que c'est ce qui vous amène au concept de jardin planétaire, alors qu'il se base sur le fait que la Terre est un espace clos, que le jardin est également un espace clos, et que l'homme, donc en bon jardinier, doit ménager cette Terre sur laquelle il habite. Alors l'idée paraît assez simple, son application... On le voit chaque jour, les beaucoup moins. On voit aussi clairement qu'il s'agit d'une pensée politique. Mais pour revenir à la naissance de ce concept, comment est-ce qu'il prend forme dans votre esprit ? Est-ce qu'il y a des moments comme des épiphanies où tout d'un coup vous dites, vous comprenez quelque chose, ou est-ce que c'est au contraire la prise de notes, la réflexion, regarder votre jardin qui fait qu'une idée cristallise ?
Mais pour le jardin planétaire, c'est les voyages qui ont beaucoup joué un rôle très très important. Je dis souvent, le voyage, ça nous permet de savoir où on habite quand on revient. Sinon, on n'a pas trop idée de où on est. Mais quand on fait ça, parce qu'on rentre dans un système de points de comparaison, on voit une diversité qui est une diversité culturelle, d'expression, de ville, d'architecture, de comportement, etc., de nature... aussi beaucoup, puisqu'il y a toute cette biodiversité dont on parle. Et subitement, on voit aussi les croisements, les hybridations. On voit l'effet du brassage planétaire. On voit les vagabondes qui sont venus s'installer. Donc on est dans un jardin de ce point de vue-là. La première des raisons pour laquelle je pense qu'on peut dire la planète est un jardin, c'est ça le jardin planétaire, c'est le brassage planétaire. Parce que le premier jardin, le tout premier jardin, celui qui est historiquement... Le moment où l'homme abandonne son nomadisme pour se sédentariser, c'est un petit enclos où il met à l'intérieur des choses qui autrefois il allait cueillir ou ramasser là où ça se trouvait. Donc il importe. Mais avec les moyens techniques, il va emporter de plus en plus loin. Et il va faire venir dans son enclos des choses, surtout pour manger, hein, ces vivriers au départ, qui arrivent quelquefois même de pays de l'autre côté des océans. C'est le lieu du brassage planétaire par excellence, un jardin. Tout ce qu'on mange, ça vient d'ailleurs, ou presque. Hein. Et donc, quand on voit sur la planète que ce brassage existe absolument partout, parce que on va découvrir des pins parasols d'Europe en Afrique du Sud, ou des acacias cyclopes qui viennent d'Australie, là-bas, ou chez nous, enfin, je ne vais pas vous faire la liste, la berce du Caucase fait partie des choses qui ont voyagé, et ainsi de suite, on est dans le mécanisme du brassage planétaire. Comme probablement, ça l'a toujours été, par l'action du vent, des oiseaux, etc., des animaux, des transports, des courants marins, mais accéléré considérablement par l'activité humaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la couverture anthropique, le jardin. Il est un espace où l'homme est partout, petit jardin. Même là où il ne met pas les pieds, il sait que ça existe un peu loin. Pareil pour la planète aujourd'hui. Il y a des drones partout, on est partout, quoi. Même là où on ne met pas les pieds. Et enfin, la troisième raison, c'est la définition du mot. C'est que jardin signifie enclos. La finitude spatiale, c'est une réalité. L'écologie nous apprend ça. Mais bon, on le sait que la vie, elle est dépendante des limites de la biosphère, 8-10 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, 8-10 000 en dessous, c'est pas grand-chose, hein. C'est une petite épaisseur de, comme ça. Et on nage tous dans ce même bain, dans l'eau, de cette biosphère, on peut pas vivre sans ça. Ça nous amène vraiment à, c'est une condition de partage et à regarder les choses totalement, totalement autrement. Donc c'est une vision politique, bah oui, mais c'était pas prévu pour, c'est juste une vision au départ écologique dans le sens non politisé. C'est une observation. C'est tout. Après, ça devient obligatoirement politique quand on commence à le mettre dans une situation de régie. C'est-à-dire, comment fait-on pour vivre demain ayant compris ce qui se passe là?
Vous dites que ça vient des voyages, Gilles Clément, mais en voyage, est-ce qu'il y a justement des carnets de notes, des dessins, des pensées qui après, ben voilà, prennent une forme plus grande? Vous avez écrit beaucoup de livres. Et écrire, c'est une façon de penser?
Alors écrire, c'est quelque chose d'absolument incroyable comme mécanique. Il faut, pour arriver à exprimer ce que l'on a ressenti, trouver des mots qui ont vraiment la possibilité de le faire. Et ça, ça exige, il y a heureusement un choix de vocabulaire important. Et bon, il arrive parfois qu'on soit obligé d'aller chercher dans une langue étrangère, mais c'est rare, on a une étendue suffisante. Mais c'est précis, trouver le mot qui convient, c'est un exercice qui peut prendre du temps. C'est ce que je demande aux étudiants. Quand ils ont eu le rêve qui leur convient sur l'espace qu'on leur a donné, on va ensemble tous dans le même territoire et il faut qu'ils rêvent, parce qu'il faut qu'ils imaginent quelque chose qui leur convienne. Si par hasard ils étaient là, plus tard, dans ce lieu, qu'est-ce qu'ils feraient? Et peu importe les conditions de faisabilité pour l'instant, ils rêvent. Après, ils décrivent. Il faut qu'ils écrivent leurs rêves. Et là, ils souffrent. Là, c'est là qu'ils souffrent. Hein. C'est trouver les mots. Une page, parfois, pas deux peut-être, pas plus, quoi, ça suffit. Et puis, quand ils font cet exercice-là, alors, ils éliminent les mots en trop. Il n'y a pas deux idées, trois, qui se battent et qui s'annuleraient. Il y en a une qui émerge, et ça, c'est meilleur. Donc, c'est un exercice extrêmement bizarre et intéressant que j'ai découvert, moi, en écrivant.
Oui, mais vous, c'est pas une page ou deux, c'est souvent beaucoup plus.
Oui.
Et du coup, il y a une forme de satisfaction quand on a trouvé les mots, les phrases, les paragraphes.
Oui, alors, en général, il y a une, oui, même quelquefois en se redisant, ah oui, j'ai écrit ça, bah ça alors. Bon. Et puis, il y a des moments où on se dit, non, c'est pas possible, je recommence là, je reprends là. Et puis, il y a une troisième catégorie où on dit non, ça convient, mais personne ne comprend. Et ça m'arrive en ce moment, avec un roman dont personne ne veut.
Et vous vous demandez pourquoi? Vous ne comprenez pas pourquoi personne n'en veut, vous?
Je crois que personne n'a osé me dire. Bon, je vais essayer de le faire lire à d'autres que ceux à qui je l'ai déjà fait lire. On verra. C'est une anticipation. Peut-être que ça ne plaît pas.
Vous pensez que ce sont les idées?
Il y a sûrement les deux, parce qu'il doit y avoir le style, il doit y avoir la mécanique d'emportement dans un roman, et qui est très importante, et puis les idées, oui.
Mais vous avez eu envie, alors là je parle de quelque chose que je découvre en même temps que vous m'en parlez, Gilles Clément,
oui,
vous avez eu envie de passer
ici,
par le roman pour...
Ah ben il y a des... Oui, quand
pour
on est...
délivrer une vision du monde, un message peut-être.
Oui, oui, oui.
Et c'est le, pour vous le bon véhicule, le roman, à ce moment-là?
Ça peut l'être, c'est pas toujours. Ça peut l'être, oui, bien sûr. Le Manifeste du tiers-paysage n'est pas un roman. C'est vraiment un texte très court et écrit d'une façon bizarre, qui m'a étonné moi-même quand je l'ai fait, en 8 jours, comme ça, sous forme de manifeste. Mais un roman, c'est autre chose, parce que ça nous emporte dans un monde qui est une ambiance, une manière de vivre, et ça, c'est intéressant. Bon, j'en ai fait un qui s'appelle La dernière pierre et qui n'est pas... C'est un vrai roman, tout simple, je veux dire, c'est pas du tout... Là, c'est différent, évidemment, qu'il y a... Pour livrer un message, ça peut aussi être utile, mais peut-être que c'est pas la bonne idée. Je sais pas.
C'est peut-être pas la bonne forme.
Peut-être.
Vous évoquez cette question-là, Gilles Clément. Comment est-ce que vous savez... comment est-ce que vous avez déterminé que ce texte dont vous parlez à l'heure actuelle, là, c'était la forme d'un roman qu'il devait prendre?
Parce que je voulais que... On est toujours la présence humaine, la faiblesse même, la fragilité humaine quelle que soit l'avancée dans le futur, c'est une anticipation à je ne sais combien de temps, avec technologique, bon, il y a eu la guerre des nuages, il y a eu plein de choses comme ça, 3 milliards de morts, c'est un détail, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la planète. Bon, bref, mais les humains ont toujours une manière de se comporter les uns avec les autres qui, au fond, ne change pas énormément. Pas énormément. Donc, il me les fallait. Il fallait que je les crée, les personnages. Sinon, on n'aurait pas senti cette dimension-là.
Pour les autres textes, alors, pour roman d'ailleurs, mais pour les textes plus théoriques, est-ce qu'il y a une méthode de travail pour vous, Gilles Clément? Est-ce qu'il y a des horaires, des lieux, des rituels d'écriture?
Non, c'est le matin parce que c'est le matin. L'esprit, il est plus clair après le café. Juste, puis ça se fatigue en début d'après-midi. Et là, je suis dans le jardin parce qu'on a les mains qui travaillent, le corps qui travaille entièrement et l'esprit qui est en totale liberté. Donc là, on est dans le rêve, tout va bien, quoi.
Et quand vous êtes dans le jardin, le roman s'écrit aussi en même temps?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a des moments où tout à coup, il dit « Ah ben non, il faut que le personnage soit comme ci, soit comme ça ». Alors ça vient sans effort.
Mais est-ce que ça peut être aussi une distraction au sens pour le coup négatif d'avoir un roman en tête quand on est dans son jardin et qu'il faut quand même évidemment prêter attention à
Ah non,
tout.
Non, c'est pas ça. Non, c'est le jardin qui prime de toutes les façons. On est sur l'action parce qu'on ne peut pas faire un geste de travers. Mais il y en a quelques-uns qui sont mécaniques et répétitifs. Et pendant ce temps-là, l'esprit fait ce qu'il veut quand même. Il a le droit.
Et est-ce que dans toutes ces années passées dans votre jardin, toutes ces années passées à écrire des textes de différentes natures, Gilles Clément, est-ce que vous avez le sentiment d'un progrès dans votre travail? Que vous améliorez quelque chose de votre travail? Ou est-ce que il s'agit chaque jour de recommencer avec un regard neuf, avec un esprit neuf, avec une plume neuve?
Oui, ça, je crois que oui. Recommencer avec des outils différents, oui. Là, j'ai fait un tableau en collant des timbres, c'est nul, mais je n'avais jamais utilisé ça. Il va être montré dans une exposition sur mon travail, une exposition itinérante qui s'appelle « Toujours la vie invente ». Et comme je ne savais pas quoi faire de ces timbres que j'ai accumulés pendant des années, puis c'est des choses qu'on reçoit sur des enveloppes, puis c'est quand même beau un timbre, enfin ça a des couleurs. Et on se dit, mais c'est idiot de jeter ça. C'est quelquefois très laid aussi. Hein. Enfin bon, alors si on les met comme ça, on dit tiens, c'est des couleurs, et on peut les ranger par couleur. Donc j'ai rangé les timbres par couleur, après les avoir décollés, fait sécher, etc. Puis ça finit par faire comme de la peinture, quoi. Donc c'est des nouveaux outils. Enfin, je le dis pour ceux qui veulent. Gratuit, hein. Et c'est pas inintéressant. Oui, je pense que se remettre à la tâche avec quelque chose qui était pas ce qu'on avait auparavant, c'est vraiment bien. Dire qu'on fait des progrès dans le travail, c'est ça que vous avez...
La notion de progrès, est-ce qu'elle a un sens pour vous, dans votre pratique?
Ou en général?
Non, dans votre pratique.
Dans ma pratique, hein.
Oui.
Oui. Moi, je dirais que elle est si elle existe, c'est quand, justement, on peut ne pas travailler. Il faut que je m'explique là. Dépenser une énergie contraire est, de mon point de vue, complètement stupide. Et c'est coûteux, c'est polluant, c'est énergétiquement, c'est fatigant. Et quelquefois, c'est tellement stupide qu'on se demande pourquoi on le fait. Alors peut-être qu'il faut éviter de faire une économie dans ce travail-là. Donc le travail, il irait plutôt pour moi dans la meilleure compréhension de ce que j'appelle donc le génie naturel, j'en parlais tout à l'heure, pour faire moins de choses qui sont la dépense de l'énergie contraire, moins de dépenses d'énergie contraire. Et à ce moment-là, oui, je peux dire, ben, au fur et à mesure, et là ça concerne plutôt le jardinage, donc plutôt le travail dans le temps et non pas la conception, oui, il y a eu un progrès. Oui, de ce point de vue-là, il y en a eu un progrès. Je vous fais ma théorie de l'Anthropocène.
Allons-y.
À moi.
Bien sûr.
Elle commence avec le premier jardin. Donc c'est le moment où le nomade devient sédentaire. Alors, le premier, je ne sais pas quand, c'est vieux. Puis il évolue. Il y a de plus en plus d'humains qui se sédentarisent et qui transforment le paysage, forcément. S'il y a Anthropocène, il y a marque sur le territoire. Et par l'homme. Hein. Et ça, c'est bien le cas. Et puis, il acquiert une telle illusion de la maîtrise avec son outil qu'il va partout et il a la certitude qu'il est le maître, complètement le roi, quoi. Et ça, c'est vers l'époque, cette époque du 19e siècle, c'est peut-être celle-là qui, pour moi, traduit le mieux cette expression, même si on est toujours dessous cette idée-là, en oubliant complètement tout ce qui existe et qui n'est pas dans la rentabilité, l'utilité, etc., la compétitivité, nanana. Et ça s'appelle le stupidocène. À peu près commence à peu près au milieu du 19e et on est en pic, là, on est dans une pointe, oui. Forte.
Pour revenir vers les sujets plus agréables
oui.
À évoquer.
Excusez-moi.
Ah ben non, pas du tout. Oui. Mais comme vous avez évoqué une activité plasticienne, je me demandais aussi de quelle façon les autres arts vous nourrissez. Littérature, cinéma, musique, art plastique. En quoi ça imprime quelque chose dans votre réflexion, dans vos jardins?
Mais c'est quelque chose qui est tellement fondamental que j'aurais du mal à vous dire et à faire la liste. Quand je suis allé, parce que j'ai eu cet avantage, ce privilège incroyable d'aller visiter la grotte Chauvet, et qu'à l'époque, la directrice qui s'en occupait, nous étions 5 dans cette grotte. J'étais complètement bouleversé en sortant, en me disant non, ce que l'homme livre à l'homme, ce qu'il lui laisse dans le temps, c'est ça, c'est cette dimension-là, c'est-à-dire que il a vu quelque chose, il a regardé, il a donné à lire et on part avec ça et on l'oubliera jamais. Puis en plus, en sortant, je tombe sur le pont d'Arc et il me dit, il y a plein de grottes dans lesquelles ils auraient pu faire ces dessins. Et on sort, on a là, il dit, mais non, en plus, c'était des paysagistes, quoi. Donc il y a une dimension artistique chez l'humain qu'il cède de génération en génération dont on ne peut pas se passer. On a l'impression que tout est assis dessus finalement. Et que même les décideurs, sans s'en rendre compte, prennent les idées de ceux qui ont imaginé les choses autrement, et ce sont souvent des artistes. Donc l'art contemporain joue un rôle pour moi, même s'il y a des choses que je déteste dedans, il y en a beaucoup que j'aime. Là, j'étais hier, avant-hier, à l'inauguration d'un frac de Marseille, des photos qui sont issues de montages de sculptures photographiques qui ensuite sont, elles, détruites, mais les photos restent, de Thierry Fontaine, qui est un artiste dont l'imaginaire est absolument extraordinaire. Il t'emporte, quoi. T'es parti, là. Et tous les gens, y compris les étudiants, les quais de Versailles, de l'école de Versailles de Marseille, étaient là, de Versailles et de Marseille, ils ont une antenne à Marseille, étaient là et ils regardaient, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, on ne sait pas. Mais oui, l'art... Quelquefois, c'est le cinéma, quelquefois, c'est une chanson. Là, on me demande, pour France Culture, tiens, on me demande un truc musical. Comment ça s'appelle ?
C'est pas un choix.
Un intermède, un choix. Et je tombe sur Cyril Mokayesh, que personne connaît vraiment, quoi.
Non.
Non.
Pas encore, mais grâce à vous, maintenant.
Et j'étais complètement étonné. J'écoute ce type. Il dit, c'est extraordinaire. Bon, quelquefois, il y a une chanson qui s'appelle « Je suis communiste ». D'accord, c'est pas vrai, hein, mais il a quand même un engagement, d'accord. Mais c'est pas ça. Il a une dimension poétique qui est d'une force telle qu'on se dit, mais je sais pas où il a pêché ça, comment il s'arrange avec le son, tout est très très fort, quoi. Donc voilà, ce sont des gens jeunes, hein, ça, les deux dont je vous parle. Thierry Fontaine, Cyril Mokayesh.
La musique. Il y a cette idée reçue que la musique fait du bien aux plantes. Vous y croyez, vous, Gilles Clément ?
Ah, c'est pas que la musique, c'est tout.
Vous leur parlez ?
Ben, la voix, c'est une musique. Et alors, la communication entre les plantes et entre les animaux et les plantes, elle est très. Commence à être très étudiée. Et on sait qu'une plante va tourner son feuillage comme ci, comme ça, en fonction de quelque chose qu'elle reçoit. Et forcément que ce qui vient de la voix, ce qui vient de n'importe quel émetteur de son, a une action sur le... Bon, il y a d'autres choses. Hein. Il y a des plantes qui, d'une façon directe, font des choses pour se protéger. Par exemple, la piloselle. Moi, j'ai une petite piloselle chez moi, une petite plante très petite. La famille des composés, elle émet des toxines au bout de ses racines pour se désherber. Elle enlève les graminées. On ne nous a jamais appris ça. Hein. Ça, c'est parce que... Et on ne sait pas jardiner avec ça, évidemment. Mais on devrait... On connaît, je ne sais pas, l'histoire de l'acacia épineux, tout le monde connaît ça, avec la l'impala, vous savez, qui s'approche, qui goûte le feuillage. Bon, et au bout d'un moment, l'acacia, il en a assez, il émet la toxine dans le feuillage, mais en même temps, il émet un gaz éthylène qui prévient les autres acacias derrière, là, que l'impala, il va arriver. Et puis, si l'impala, il arrive et qu'il goûte les autres, il est foutu. Donc, tout ça, c'est quand même des choses qui existent. C'est pas un rêve. Hein. On commence à étudier ce que c'est que la timidité entre deux arbres, des choses qui sont des, manifestement, ça se voit visuellement, l'écart qui existe. Ce sont des choses qu'on peut vérifier, qu'on a du mal à comprendre. Et je suis sur un projet, en ce moment, avec le CNRS et quelques autres chercheurs, dont certains de l'INRA, de Clermont-Ferrand, mais là, ça se passe en Corse, à Cargèse, où on va étudier la conversation entre les plantes. Ça, c'est le sujet général, mais avec des chercheurs qui ont des bureaux, des ateliers de recherche qui sont très différents, travaillant sur le rapport entre le son, justement, l'action mécanique, l'action chimique entre les plantes.
La timidité des arbres.
Oui. Ça, il y a une centaine d'espèces timides répertoriées. Ben oui, moi j'ai une photo de Samanea saman, qui est un arbre de la famille des légumineuses. Elle est sud-américaine, cette plante, mais je l'ai prise en Australie. C'est un arbre qu'on plante dans les pays subtropicaux, qui est très beau de chaque côté d'une route. Ils ont le même âge, voilà. Et quand on regarde comme ça, il y a une lumière qui se fait entre les frondaisons. Ils ne s'interpénètrent pas, ne se recouvrent pas. Et on appelle ça une fissure de timidité. Les scientifiques sont des poètes.
Hein. Ça fait quelques beaux titres de livres, ça. Mais on parle vous avez parlé à l'instant du génie humain aussi à propos des autres arts, Gilles Clément, mais le tiers paysage, parce que vous avez évoqué ce troisième concept, vous l'avez élaboré, je crois, au cours d'une analyse menée à Vassivière en Limousin, au Centre oui. international d'art et du paysage, cette presqu'île non naturelle, hein, c'est un EDF hein, qui a créé cette île. Il y a cette publication que vous avez évoquée, Manifeste pour un tiers paysage, qui date de 2004. Je lis là encore cette courte définition. Le tiers paysage, fragment indécidé du jardin planétaire, désigne la somme des espaces où l'homme abandonne l'évolution du paysage à la seule nature. Alors, effectivement, on a l'impression que c'est une forme d'accomplissement finalement du jardin en mouvement, vraiment libre. Sans intervention humaine, ici, c'est la nature seule qui est créatrice. Ça paraît évidemment presque paradoxal d'élaborer ce concept dans l'esprit humain pour dire que finalement l'humain là est en retrait totalement.
Alors l'humain n'est pas du tout en retrait parce qu'il a absolument besoin de ça. Il en a besoin à plusieurs niveaux, ne serait-ce que parce que voir un espace de liberté donne le sentiment de la liberté. C'est comme les chiens sans laisse et sans collier dans la rue. C'est pas pareil que de les voir attachés. Mais aussi parce que c'est un territoire d'accueil, et c'est surtout ça, d'accueil à une diversité qui, elle, est chassée de partout ailleurs. Partout. Mais vraiment de partout. Ça veut dire la moindre surface de culture réservée au maïs. Vous n'avez pas une autre herbe, une autre animal, rien. Il n'y a rien. Il y a le maïs, point, c'est tout. Bon, c'est des surfaces considérables. Où se réfugie cette diversité ? Dont on a besoin, on le sait, puisqu'on en dépend. On ne peut pas imaginer dans le futur se limiter aux quelques espèces peu nombreuses que nous exploitons. Il y a certainement d'autres pistes, mais encore une fois, comment fait-on pour les exploiter sans les détruire ? Donc il nous faut tout ça, et dans ces lieux, il y a les auxiliaires du jardinier, c'est-à-dire sans que nous sachions des espèces animales parfois, mais oui, très souvent animales, mais parfois des champignons, parfois invisibles, hein, des mycéliums souterrains, des tas de choses, qui ne peuvent vivre qu'à la condition qu'on n'ait pas mis les intrants qui tuent. Donc il les faut, ces espèces-là. Et à partir de là, on voit arriver des choses extrêmement en synergie positive, extrêmement utile, ne serait-ce que pour se nourrir, toute la permaculture exploite évidemment ces histoires-là. On a besoin de cette diversité. Donc c'est un trésor. La friche peut être regardée comme un trésor.
Vous l'avez expérimenté notamment au parc Henri Matisse de Lille, ou sur le toit de l'ancienne base des sous-marins de Saint-Nazaire. Alors là, très particulièrement, j'imagine que vous allez voir, il s'agit peut-être d'en tirer des enseignements. Là, vous regardez.
Alors, pour le parc Matisse, c'est la ville qui, avec ses jardiniers, qui fait les observations de la diversité qui se transforme énormément. Hein, parce que la diversité qui apparaît au départ dans un terrain abandonné, elle est herbacée, surtout sous nos climats, là, elle est grande dans cette condition-là qui est celle du soleil et de la lumière et de l'eau. Et elle disparaît visuellement, à fur et à mesure que poussent les arbres. Et aujourd'hui, c'est une forêt, le toit de l'île d'Herborance au parc Matisse. Et donc, en dessous, il y a moins d'espèces visuellement qu'il n'y en avait. C'est illusion. Il suffirait d'une petite clairière, un chablis, arrive de l'eau, de la pluie, mais surtout la capacité que soit levée la dormance des graines par tous ces mécanismes-là, et vous voyez arriver plein de choses. Donc elle est toujours là, bien entendu. Et oui, c'est pédagogiquement très intéressant, à la fois pour ce que je viens d'expliquer, et aussi pour qu'est-ce qui arrive sur un sol totalement minéral et nu, c'est le cas du toit de la base sous-marine, et qui petit à petit va coloniser, va s'installer. Alors on a les pionnières annuelles, bisannuelles, puis après des vivaces, des petits arbustes, etc. On peut avoir jusque des arbres qui commencent à pousser. Et il y a le lycée Jules Rieffel qui vient avec un professeur de botanique et les trois enseignants qui ont cette classe de BTS et qui font trois fois par an un relevé. Ça, c'est très bien.
Il y a une analogie évidente dans ce concept de tiers paysage entre la nature et l'humain. Il faut réserver de la place pour accueillir un espace libre, pour qu'il y ait de la diversité, pour qu'il y ait des migrations possibles. La nature, elle nous parle de notre espèce aussi humaine.
La nature ne connaît pas du tout le cadastre. C'est pas ce que c'est qu'une frontière. Le vent passe. Les courants marins distribuent la noix de coco, on ne sait même pas de son origine géographique, d'île en île sur la couronne tropicale. Tout ça n'a aucun sens de vouloir cantonner. Dès lors qu'on peut rentrer dans une possibilité de vie, ce qu'on appelle un biome, les humains, eux, par leur amplitude biologique très forte, sont capables d'aller dans tous les biomes, toutes les zones climatiques. Et à cause des problèmes qu'ils rencontrent, ils sont quelquefois obligés de changer. Quand une zone comme autrefois le Sahara, où il y avait de l'eau et des arbres, et une forêt devienne un désert, on s'en va. On va ailleurs. Donc, quand il y a la guerre imbécile du Stupidocène, on s'en va. On va ailleurs, etc. Ben oui, on va ailleurs et c'est tout, quoi. Donc on doit bien entendu avoir accepté ce système-là, qui est celui biologiquement qui date depuis le début, que ce soit les plantes ou les animaux et les humains, de changer de lieu. Ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas, parce que ça n'est pas pris en compte, c'est tabou, c'est la question démographique. Une population végétale, une population animale se régule. Il y a une autorégulation systématique au bout d'un moment. Hein. Ça prend un certain temps. Mais quand ça n'est plus viable, il y a une régulation. Nous, non. Nous accroissons, quels que soient les drames, nous accroissons sur la planète sans faire de réflexion. Et quand on impose de façon tyrannique, arbitraire, Mao a fait ça en Chine, un enfant par famille, c'est terrible. Si on ne comprend pas pourquoi. Or, il n'avait pas du tout une appréhension du jardin planétaire. Personne, même encore maintenant. On ne peut pas imposer ça à des gens qui estiment que dans la descendance, il y aura les petits-fils pour s'occuper des grands-parents. C'est quand même fondamental. On peut pas. C'est cruel, quoi. Aujourd'hui, ils en sont à deux, mais paraît-il qu'ils ont moins. Bon. Mais ça n'est pas résolu pour autant. À partir du moment où quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance serait apporté à ceux qui sont dans le système de la reproduction, c'est absolument inévitable. On voit pas comment on pourrait faire autrement. Ça se fait de soi. Ça va de soi. Et ça se fait sans qu'on en parle. Donc pour moi, le premier des ministères et le plus important sur la planète, pas seulement chez nous, hein, pour lutter contre la bêtise, là, ce serait celui de la connaissance. C'est celui-là qui est au-dessus dans mon gouvernement idéal. Attendez, je vais me mettre debout parce que comme ça, ça ira mieux. Vous voyez, il est là. Puis en dessous, vous avez le logement, la santé, les machins. Et là,
tout en bas.
C'est pour ça qu'il faut que je sois debout.
Au sol.
Oui, c'est l'économie, là. Alors, qui permet, il est très important parce qu'il permet de faire fonctionner les autres. Mais ce n'est pas celui qui donne ses ordres.
Par contre, c'est celui que vous mettez au niveau de la terre. C'est quand même pas rien pour un jardinier.
Mais c'est très important. L'économie, elle a besoin d'être réaliste et pas celle du jeu de la spéculation financière. Ça n'a rien à voir.
Irriguer directement du sol et pas justement.
Mais c'est la terre, bien sûr. Je ne sais pas si on m'a entendu là.
Oh oui. Bon. Mais là, ce qui veut dire que tout acte de création. Alors, futile d'un jardin, et je mets beaucoup de guillemets, c'est un acte politique, Gilles Clément.
On ne s'en rend pas compte, oui. Mais moi, je ne m'en rendais pas du tout compte. Hein. Je ne suis pas parti d'un principe idéologique, à aucun moment. Mais simplement, après, surtout quand j'ai eu accès à la commande publique, qui a commencé avec Parc Citroën, Jardin de Valois, Jardin de Blois et quelques autres, à ce moment-là, on est dans l'espace public et on rentre dans la régie dans les polices, la ville, la régie de la ville, les gens, les humains, les citoyens, etc. On ne peut pas ne pas imaginer la dimension politique du jardin. Mais finalement, on se rend compte que même en retournant au petit jardin vivrier, on est dedans aussi. Aujourd'hui, à partir d'un petit jardin partagé créé rue Trousseau dans le 11e à Paris, il y a 12 ou 13 ans, on en est à plus que 100. Et ce sont des gens qui se rencontrent et qui travaillent là et qui se... entretiennent une convivialité qu'ils n'auraient pas imaginée et qui même peut-être se rééquilibre même. Il y a un côté thérapeutique très fort dans le jardinage, mais qui en même temps découvrent et apprennent, et ça c'est très très fort. Et la dimension politique de ça, on n'en parle pas trop, elle est très très importante.
Une question qu'on pose aux artistes qui se succèdent dans ces masterclass, Gilles Clément, c'est la question de la postérité. Alors, évidemment, pour vous, elle se pose un peu différemment. L'œuvre n'est jamais achevée, le jardin est toujours en évolution, et encore plus, jardin en mouvement jusqu'au tiers paysage. Il y a la postérité des idées, il y a la transmission, c'est important pour vous, cette notion de transmission, que d'autres, après vous, poursuivent vos travaux, vos études, élaborent de nouveaux concepts à partir des vôtres.
Oui, c'est quelque chose de... Mais c'est pas très important qu'il y ait la signature de l'idée. Ce qui est important, c'est qu'on se rende compte qu'on a peut-être servi à quelque chose. Il faut que je dise quoi ?
Non, vous avez ce sentiment aujourd'hui quand vous voyez vous avez, pas dire disciples, mais en tout cas des gens qui suivent.
Oui, il y a des étudiants qui reprennent, qui sont maintenant des professionnels, mais qui reprennent ça, qui transforment aussi. Il y a toujours des améliorations, des transformations, des adaptations. Donc oui, c'est très bien, oui.
Donc vous avez ce sentiment là d'avoir servi déjà à quelque chose.
Je crois, j'espère, oui.
Grand merci à vous, Gilles Clément, d'avoir partagé votre savoir.
C'était la masterclass de Gilles Clément avec Arnaud Laporte. Attaché de production Mathieu Maroudin, coordination Arnaud Laporte, réalisation Olivier Guérin.